Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Mali, le bras de fer continue entre l'opposition et le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. La preuve, la grande manifestation organisée le week-end dernier à Bamako par les partisans du candidat Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle par Ibeka. Objectif des contestataires, protester contre les résultats du scrutin. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'était le rappel des militants et des sympathisants pour une énième marche contre la fraude, marche au cours de laquelle le chroniqueur Aras Bach indexe la communauté internationale.
Les observateurs de la CDAO ont manqué à leur devoir de crédibilité.
Ça, c'est vrai.
Les observateurs de l'Union européenne ont privilégié les intérêts européens au respect des droits de liberté de la démocratie malienne.
Pour les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a que les urnes pour accéder au pouvoir. Ousmane Kolandaou, membre du directoire de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta.
J'appelle tout un chacun à savoir et raison garder. Au Mali, aujourd'hui, depuis mars 91, on ne peut accéder au pouvoir que par les urnes. Et nous croyons aujourd'hui que toutes les procédures légales ont été bouclées. Nous croyons qu'au sens républicain de l'opposition, pour dire que chacun de nous se bat pour construire le pays. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait le bon sens d'accepter ces résultats. Et qu'ensemble, nous considérons les pays.
Devant 50 000 personnes réunies sur le boulevard de l'indépendance, Soumaïla Cissé a fait savoir que les marches de l'opposition sont pacifiques. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Élections en Afrique toujours, en RDC, où la présidentielle aura lieu le 23 décembre. Le MLC, le parti de l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba, compte déposer un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici demain matin, après le rejet de la candidature de son leader par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les supporters du MLC, le Mouvement de libération du Congo, promettent de se mobiliser par tous les moyens pour faire approuver leur candidat. Au total, la CENI a écarté 6 aspirants à la présidence sur les 25 qui avaient déposé leur dossier. De Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
L'opposition à travers ses candidats président de la République a aussitôt réagi. À travers une communication lue notamment par Martin Fayoulou, elle a clairement accusé le pouvoir d'être à la base de la mise à l'écart des candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Bemba. S'en sont suivis tous les week-ends de nombreuses déclarations des candidats et partis politiques concernés, notamment Adolphe Mouzito, pour qui le camp du président Kabila élimine les opposants pour se frayer un chemin vers une victoire facile. Les Kinois interrogés sont, eux, partagés entre l'instrumentalisation de la CENI par la coalition au pouvoir évoquée par les opposants et la voie de recours à suivre par les candidats invalidés.
Pour moi, c'est une entorse déjà au processus électoral. C'est comme si la majorité veuille se choisir ses candidats.
De mon point de vue, je pense qu'il était prévisible que certains dossiers qui avaient des litiges soient invalidés. Mais il y a une grande étape qui est prévue dans le calendrier publié par la CENI, la voie de recours. Les opposants ne doivent pas perdre l'espoir. Attendons voir et faisons confiance à la justice.
Le suspense est donc maintenu jusqu'au 19 septembre prochain, jour de la publication des listes définitives. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, après l'Afrique du Sud, la Namibie veut elle aussi engager une réforme agraire. D'après le président namibien Hage Geingob, cette réforme autorisera les expropriations afin de corriger les inégalités foncières héritées de l'époque coloniale. Le point avec Nathalie Barge.
La Namibie tiendra en octobre une conférence nationale sur la terre, a déclaré Hage Geingob lors d'une cérémonie commémorant les héros du pays. La conférence doit notamment examiner la politique de redistribution sur la base du volontariat, les demandes de restitution des terres ancestrales et l'expropriation avec une juste indemnisation. Depuis son indépendance en 1990, la Namibie a engagé une politique de transfert des terres sur la base du volontariat des propriétaires qui n'a eu que peu d'effet. Il y a 2 ans, les autorités avaient indiqué que la quasi-totalité des terres agricoles était encore détenue par des étrangers. Monsieur Guengob a toutefois rappelé son refus catégorique des évictions forcées. Son annonce intervient alors qu'un projet de réforme agraire suscite de vives tensions en Afrique du Sud, où le gouvernement veut autoriser les expropriations sans indemnisation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, poursuite des affrontements entre groupes armés, des combats meurtriers ont opposé ce week-end à Bria plusieurs organisations rivales, d'ailleurs qui ont fait au moins 4 morts et un certain nombre de blessés d'après des témoins. Bilan non confirmé par la MINUSCA, la mission de l'ONU dans le pays. Jacques Aristide.
Il y a eu des affrontements entre les anti-Balaka et le FPRC avec des pertes dans les deux camps, a déclaré le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, précisant que les forces de sécurité centrafricaines et la police onusienne ont pris des mesures de sécurité. Les combats ont cessé dimanche après-midi, mais des tirs sporadiques étaient toujours entendus dans la soirée. Le FPRC a reçu le soutien d'un autre groupe de l'ex-Séléka, l'Unité pour la Centrafrique, lors de ces affrontements qui auraient pour origine un règlement de compte à propos du vol d'une moto. Depuis 2013, la quasi-totalité du territoire de la Centrafrique vit sous la coupe de milices et groupes armés. Aujourd'hui, groupes armés issus de la Séléka et milices anti-Balaka s'affrontent pour le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, classés parmi les plus pauvres au monde, mais riches en diamants, or et uranium.
Retour en Afrique de l'Ouest avec le problème de la drogue au Sénégal. Un certain nombre de jeunes sénégalais se droguent. La drogue la plus accessible et la plus utilisée est le cannabis, communément appelé chanvre indien, ce qui a conduit des jeunes et des adolescents à sombrer dans la délinquance juvénile. Le reportage du correspondant de VOA Afrique à Dakar, Sedina Abagay.
Nous sommes au populaire quartier de Khayale, dans la banlieue de Dakar. Dans le calme plat de la nuit, un groupe de jeunes se partage un joint de chanvre indien enveloppé dans un bout de papier. Pour eux, ce moment est unique. Sous couvert de l'anonymat, ils se confessent au micro de VOA Afrique.
Fumer du chanvre indien me permet de me libérer de tous mes soucis pendant un certain temps. J'ai commencé à prendre ça au collège parce qu'il y avait un grand qui m'en vendait par petites quantités et finalement je m'y suis habitué. Et avec mes amis, on se cotise pour avoir un joint à nous partager. On prend notre dose et on ne dérange personne.
Pour avoir leur dose, ces adolescents se tournent vers leur fournisseur, lui aussi relativement jeune. Il explique les détails de son business.
Je suis passé par la même galère que ces jeunes avant de devenir revendeur. Il y avait nos grands qui fumaient du chanvre juste derrière notre école. Et en les fréquentant, on a chopé le virus. Et depuis, on est dans le business du chanvre. Au Sénégal, il y a de rares personnes qui cultivent du chanvre indien. La plupart du temps, on s'approvisionne depuis la Gambie, le Mali et même la Casamance.
Malgré ces ravages, le chanvre indien est plus que jamais utilisé par les adolescents. La plupart du temps, ils le font au péril de leur vie.
Je suis une fois tombé malade à cause du chanvre indien et je toussais tout le temps. Ces toux étaient accompagnés de sang et les gens me suppliaient d'arrêter l'usage du chanvre indien.
Le docteur Idriss Abba, psychiatre, addictologue et coordonnateur technique du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, affirme que les conséquences peuvent parfois être plus graves.
Beaucoup de jeunes deviennent du fait de la consommation incontrôlée, deviennent dépendants. L'autre conséquence aussi, c'est d'autres problèmes sur le plan médical, des problèmes bronchopulmonaires, des problèmes de comportement aussi, parce que ça entraîne des troubles du comportement, mais aussi à la longue aussi, ça impacte aussi sur les fonctions cognitives. Donc des troubles psychiatriques peuvent apparaître sur le plan médical, mais aussi ses conséquences sur le plan social, parce que aussi là où il y a consommation de drogue, il y a trafic, et là où il y a trafic, il y a aussi violence.
Au Sénégal, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar est la seule structure capable de venir en aide à ces jeunes qui utilisent la drogue. Le docteur Idriss Abba est le coordonnateur technique du centre. Il assure que des mécanismes seront mis en place pour étendre la prise en charge.
Au niveau des centres de proximité, que ce soit au niveau des districts sanitaires, que ce soit au niveau des hôpitaux régionaux, former le personnel local de capacité pour qu'il puisse prendre en charge les problèmes liés à la consommation de drogue, au même titre que les autres problèmes de santé, parce que nous sommes des médecins, on ne peut pas former partout et mettre partout des spécialistes, mais on peut aussi capaciter les gens. Et ça aussi, ça participe de la lutte contre la discrimination.
Au Sénégal, il n'existe qu'une seule structure spécialisée dans la lutte contre les addictions. Loin des structures de prise en charge et sans contrôle parental, ces jeunes demeurent prisonniers de leur addiction. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.